Quand une personnalité officielle visite le Louvre-Lens, un protocole particulier se met en place. La visite de M. Doli Makambo, bourgmestre de Lagombé à Kinshasa, ville jumelée avec Douvrin dans le Pas-de-Calais, a été bien sûr l'occasion également de mettre en place ce protocole un peu particulier, comme nous l'explique Xavier Decteau, directeur du Louvre-Lens.
Oui, tout à fait. Nous avons accueilli de nombreuses personnalités depuis l'ouverture. Des personnalités françaises, évidemment, dont le président de la République à l'inauguration, le premier ministre, de nombreux ministres. Également des personnalités étrangères. Donc, il y a eu la reine de Belgique, évidemment, mais on a eu des princesses belges aussi. On a eu des personnalités anglaises qui sont venues, beaucoup de gens du monde des musées, évidemment, mais aussi personnalités plus importantes. Et aujourd'hui, donc, un bourgmestre congolais qui est probablement la personne qui est venue, en tout cas la personnalité qui est venue du plus loin pour visiter le Louvre-Lens.
Alors on voit aussi beaucoup, comme aujourd'hui, de Japonais qui viennent avec leurs enfants, famille, la mère, la grand-mère, etc. Est-ce que du côté des officiels japonais, il y a éventuellement quelque chose en vue ?
Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, nous avons accueilli plusieurs préfets de région japonais qui sont venus au musée pour le visiter, souvent accompagnés des architectes, notamment le préfet de Kanazawa qui est venu il y a quelques temps. Oui, donc des officiels japonais régulièrement, c'est effectivement un peu plus loin de Kinshasa.
Voilà, donc effectivement, vous l'avez sous-entendu, hein, le bâtiment ici a été construit par un cabinet d'architectes, de jeunes architectes japonais, avec aussi une petite histoire par rapport à ça, c'est qu'ils ont dû revoir leur copie.
Oui, il y a une anecdote, enfin c'est plus qu'une anecdote parce que ça fait prendre un peu de retard au projet, c'est que des architectes japonais qui ont donc construit en ayant en tête les normes japonaises et notamment les dimensions de verre japonais disponibles au Japon, ils voulaient faire que le bâtiment ait la même hauteur que les maisons de la Cité Neuve à côté, et puis voilà, ça faisait 20 cm de trop par rapport à ce que l'on fabrique en Europe. Ça faisait exploser le budget. Donc on leur a fait reprendre leur dessin, on les a remis à la table de travail pour qu'ils rabaissent le musée de 20 cm et que du coup on puisse rentrer dans nos budgets.
Alors c'est vrai que l'histoire de ce musée, avant qu'il soit conçu, elle est quand même assez curieuse puisqu'il y avait dans les projets l'idée d'un musée enfoui avec un lac au-dessus.
Oui, alors ça c'est le projet qui avait remporté le concours d'architecte, celui de Rudy Ricciotti. C'était un très beau projet architecturalement parlant. Il posait des problèmes et d'image et de conservation puisque on ne veut pas avoir de l'eau au-dessus des œuvres, hein. C'est quelque chose qu'on évite dans tous les musées. Et puis l'idée d'un musée où l'on descende était trop liée à l'image de la mine. Et donc le président du conseil régional, Daniel Percheron, et Henri Loirette, le président directeur du Louvre à l'époque, ont préféré choisir un autre architecte, donc le groupe Sanaa.
Voilà, donc on est à un moment, je veux dire, où ce musée a trouvé sa forme et aussi son public. Est-ce que vous le jugez maintenant fonctionnel, comme vous le pensiez ?
Le musée est parfaitement fonctionnel. On a même au début été un peu étonné par sa capacité à accueillir des masses de public d'une façon extrêmement fluide. Donc voilà, on a les petits problèmes que peut avoir un musée qui a 3 ans, un musée encore jeune, où on découvre parfois des joints qui ne sont pas très bien posés ou ce genre de choses qui sont des détails. Mais dans sa conception d'ensemble, le musée fonctionne très bien.
En hiver, c'est pas trop coûteux le chauffage ?
Non, le chauffage, alors au début on a eu des petits problèmes de réglage, on a maintenant trouvé un équilibre et vous savez, le chauffage en hiver, la climatisation en été, l'un dans l'autre. Ce qui est le plus compliqué dans un musée, c'est de maintenir l'hygrométrie, de maintenir le bon degré d'humidité dans l'air. Mais par la combinaison, notamment l'utilisation de la géothermie, nous permet d'avoir un système qui est très efficace.
Est-ce qu'une notre région, Nord-Pas-de-Calais, le climat de cette région est finalement assez proche du degré hygrométrique nécessaire ?
Bah, vous savez, le climat d'une région à l'extérieur, le problème, c'est que quand on parle du climat, on parle d'une moyenne. Ce dont on aurait besoin, c'est effectivement de ces conditions moyennes, mais en permanence. Alors oui, parce que le climat correspond à peu près à ce dont on a besoin. Du coup, on a sur l'année moins besoin de contrôler les variations que si on était à Abu Dhabi ou à Anchorage. Mais bon, il faut toujours contrôler.
C'est C'était Xavier Decteau, directeur du Louvre-Lens, un musée qui est donc devenu une étape incontournable pour les personnalités en mission dans notre région, comme en témoigne notre invité.
Oui, en fait, je suis monsieur Doli Makambo, je suis le bourgmestre de la commune de la Gombe, à Kinshasa, une des 24 communes de la ville de Kinshasa. Et je suis ici dans le cadre de notre jumelage, un partenariat qui nous lie avec le comité de jumelage de Louvrain. Et dans le cadre de cette visite, mon équipe et moi sommes très impressionnés. Et d'abord sur l'accueil, nous avons été très bien accueillis dans ces musées. Et puis la façon de faire des choses, c'est-à-dire cette visite guidée là, ça a été guidé par quelqu'un qui connaît bien le musée, qui connaît bien toutes les œuvres qui sont ici et qui nous a expliqué l'histoire du début jusqu'à la fin. Alors ce qui m'a plus impressionné, c'est tout ce qu'on apprenait à l'école là. Bon, aujourd'hui j'ai vécu ça avec des images à l'appui, des statues et des œuvres d'art bien faites. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. En moins de 2 heures, et j'ai appris toute l'histoire. Ce que j'apprenais à l'école, j'ai vu ça, j'ai vécu ça. C'est comme si c'était vraiment de la réalité. Et j'ai vu la qualité du travail, la qualité de ces sculptures. Ça m'a beaucoup impressionné. Et puis, les explications, c'était formidable. Il n'y avait pas de questions à poser parce que tout était clair. La dame a été formidable et très gentille. Et elle nous a tout expliqué du début jusqu'à la fin. Comme j'ai dit, tout ce que j'ai appris, j'ai appris pendant beaucoup d'années à l'école. Et j'ai vu ça à moins d'une heure, à moins de 2 heures. Ça fait vraiment un plus dans notre séjour ici à Louvrain.
Voilà, donc ici on a un peu la chance, on va dire, de visiter dans l'ordre chronologique des œuvres du monde entier, enfin presque du monde entier.
Oui, on a vu vraiment dans l'ordre chronologique depuis, c'est pas moi, 600 avant Jésus-Christ jusqu'au 19e siècle. Alors j'ai vu toutes les œuvres du monde entier, bon, j'ai vu même les David dont on parle dans l'histoire et tout, bon, on nous a expliqué et beaucoup d'œuvres qu'on a vues et je peux dire tout ce que j'apprenais à l'école, là, depuis l'école primaire jusqu'à présent.
On n'a pas ici, puisque ce n'est pas la mission du Louvre, de représentation d'œuvres africaines. Est-ce que vous seriez intéressé par cette ouverture d'un musée en région Nord-Pas-de-Calais à vos œuvres ?
Oui, je pense que si on me demandait de prodiguer des conseils, de donner un avis, c'est ça que je donnerais parce que j'avais ça en tête. On a vu toutes les œuvres, mais on n'a pas vu les œuvres africaines. Et ça fait quand même partie de l'histoire du monde. Et si Louvre peut s'ouvrir aussi dans ce sens-là, ça nous fera plaisir de venir voir les œuvres africaines et tout ce qui s'est passé aussi. L'histoire africaine dans ce sens-là, et ça aiderait aussi le monde parce que les gens à Louvre veulent aussi s'ouvrir au monde. Ils veulent savoir ce qui s'est passé aussi pendant tous ces temps-là en Afrique et tout. Et je pense que ça a aidé tout le monde aussi.
Donc ici, il y a cette galerie du temps qui est intéressante parce que c'est un ordre chronologique. Les œuvres que vous auriez à présenter, des œuvres africaines, vous les situeriez dans quelle période, les œuvres les plus remarquables ?
Bon, les œuvres les plus remarquables, je pense que c'est à l'époque des pharaons. À l'époque des pharaons, parce qu'on a parlé des pharaons, on a parlé d'Égypte, mais on n'est pas entré en profondeur. Je pense que pendant l'époque des pharaons, c'est une époque très attirante, c'est une époque qui a donné beaucoup de leçons et qui peut aussi faire un lien entre l'occidental et l'Afrique. Et je pense que ça manque aussi. On a parlé un peu de pharaon, mais on devrait quand même entrer en profondeur. Ça représenterait un peu l'histoire africaine en ce temps-là. Donc,
alors, nous, on a une lecture de l'histoire de l'Afrique qui est un peu partielle, voire partiale. Est-ce que vous avez une idée des grandes dynasties africaines, des œuvres d'art qui étaient présentes à ce moment-là, et où est-ce qu'on peut voir ces œuvres ?
Bon, je pense que je dois dire, sincèrement, je ne suis pas historien, je ne suis pas je suis pas trop documenté dans ce sens-là. Je pense que l'histoire des pharaons nous éduque beaucoup, et ça, on apprend même depuis l'école primaire et jusqu'à présent.
Donc ici, vous êtes en rapport, comme tous les visiteurs, avec les œuvres dans leur dimension. Quand on les voit en photo, quand on les voit dans des livres, on n'a pas une idée de la taille, de la texture, de la matière. Là, c'est quand même assez extraordinaire.
Oui, c'est très extraordinaire parce qu'il y a de la matière qu'on voit ici qui ont permis à créer ces œuvres-là qu'on ne voit pas en Afrique. Donc c'est vraiment, il n'y a pas comparaison parce que bon, nous, on utilise plus le bois. Il y a aussi de la peinture, mais la qualité de la peinture, là, ici, on ne peut pas les comparer en Afrique. Donc, nous sommes encore à une époque où nos sculpteurs utilisent encore du bois et de la peinture qui n'ont pas la même qualité que ce qu'on a vu ici. Ici, tout est bien fait. Et je pense que c'est mélangé avec la modernité. Et nous, on est encore à l'époque, je peux dire... plus loin que l'état moderne.
Qu'est-ce qui existe dans votre ville, donc la Gombe, qui est une partie de Kinshasa, hein, c'est ça? Qu'est-ce qui existe comme lieu de présentation d'œuvres et qu'est-ce qui est présenté justement dans ces lieux?
Bon, dans la Gombe, nous avons essayé de créer un marché d'œuvres d'art, un marché de vente. C'est-à-dire, les gens travaillent à l'extérieur de la Gombe, mais ils viennent exposer à la Gombe. Nous avons même des images, nous avons même amené un petit cadeau au maire qui représente les œuvres d'art africaines. Et au niveau de la Gombe, c'est une ville qui est moderne aussi, très modernisée, urbanisée et tout. Et nos sculpteurs viennent de l'extérieur de la Gombe et ils viennent exposer à la Gombe. Parce qu'on dit à la Gombe, c'est aussi une commune touristique. Et c'est une commune qui abrite toutes les institutions du pays et même les étrangers qui viennent, ils passent leur vie à la Gombe. Alors il y a des gens qui viennent exposer à la Gombe pour tous ces gens-là, pour tous les étrangers qui viennent.
Donc on peut dire que la Gombe, c'est une ville dans laquelle on retrouve la plupart des ambassades. Est-ce que ça en fait une ville internationale?
Oui, effectivement. Parce que la Gombe, c'est notre ville qui abrite, quand j'ai dit toutes les institutions, même les missions diplomatiques. La présidence de la République, même vit à la Gombe et travaille à la Gombe. Donc c'est aussi une ville internationale et c'est une ville à travers laquelle on juge même la République démocratique du Congo et la ville de Kinshasa. Vous comprenez, donc c'est vraiment, la Gombe, c'est comme la capitale dans la capitale. Quand on parle de Kinshasa, c'est vraiment la Gombe.
Donc effectivement, ce jumelage avec la ville de Douvrin, qui n'est pas une grande ville, mais Douvrin est dans une agglomération qui est grande, avec beaucoup de ressources, puisqu'ici on est sur une des ressources de ce territoire. C'est un peu l'intérêt aussi d'être jumelé, même avec une petite ville.
Oui, parce que nous avons besoin, quand on parle du développement, vous savez, le développement ne s'arrête pas. Hein. Les pays développés continuent toujours à se développer. Et nous aussi, à notre niveau, la Gombe est différente des autres communes, ça c'est sûr. Parce que nous avons toujours besoin, parce que Douvrin, c'est une petite ville, mais qui est plus développée que la Gombe. Et qui est plus riche aussi que la Gombe. La Gombe, c'est une petite commune, mais qui a quand même une quarantaine de mille d'habitants, et qui a besoin aussi de cette expansion dans tous les secteurs. Et nous voulons profiter de ce que nous avons trouvé à Douvrin. Et Douvrin peut nous aider aussi, toujours dans le secteur culturel. Douvrin aussi peut profiter de la Gombe. Et nous aussi, nous profitons beaucoup de Douvrin, surtout dans le projet que nous avons de récupération des enfants de la rue. Alors Douvrin nous aide dans ce sens-là. Alors, nous avons un projet même de créer une bibliothèque pour ces enfants. Et Douvrin a prévu même du matériel pour nous. Et que moi-même j'ai vu hier, quand j'ai rencontré le député Nicolas, et j'ai vu le matériel qui sont stockés dans son bureau pour la population de la Gombe. Cette population-là, on vise quoi? On vise les enfants de la rue qu'on veut récupérer. Ça, c'est quand même un projet pour lequel nous allons profiter de ce jumelage avec Douvrin. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont en vue, que Gombe va faire avec Douvrin, que nous ne voulons pas dévoiler maintenant, mais bon, avec la rencontre avec le maire, quand nous allons parler avec le maire, nous allons voir dans quelle mesure on pourra exposer tout ce problème et puis voir de quelle façon on pourra ensemble trouver des solutions entre Louvain et Gombe.
Donc en France, notamment dans notre région, on voit des enfants dans la rue, des gens, des pauvres, des mendiants, etc. Là, on parle d'autre chose. Quand on dit les mendiants dans la rue à la Gombe...
Oui, effectivement, comme je vous ai dit, Gombe, c'est la commune mère. Et ces enfants-là, c'est comme, ce sont des enfants qui viennent d'émigrer, qui viennent d'autres communes et qui viennent chercher à manger à la Gombe. Parce que la Gombe, c'est comme la capitale. Ce n'est pas une commune périphérique, c'est vraiment une commune urbaine. Et ces enfants-là, ce ne sont pas les enfants de la Gombe, ce sont des enfants de Kinshasa qui viennent se réfugier à la Gombe. Alors nous, à la Gombe, on les reçoit, on ne peut pas les abandonner. Nous cherchons la possibilité de les encadrer, de créer même des centres sociaux pour les encadrer, parce que c'est un problème qui est lié plus au social du pays. Alors, le problème social du pays, c'est le gouvernement central qui doit régler. Alors ces enfants-là ne manquent pas de famille. Ils ne manquent pas de famille. Ils fuient leur famille parce qu'ils n'ont pas la possibilité de bien vivre dans leur famille parce que les parents n'ont pas de moyens. Alors ils viennent dans la commune de la Gombe, espérant trouver de quoi survivre. Parce qu'il y a même des étrangers, il y a des ambassades. Et, bon, ces enfants-là, ils vont toquer partout pour trouver de quoi manger. Mais nous, nous votons les encadrer. Les encadrer, il faut avoir des moyens. Il faut créer des centres de récupération. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Douvrin pour nous assister de ce côté-là. Si on peut créer des centres de récupération de ces enfants-là, et donner peut-être une éducation, et créer des écoles professionnelles, et ça pourra toujours nous aider à récupérer ces enfants-là.
Merci, monsieur le bourgmestre.
Je vous en prie.
Merci à M. Doli Makambo, bourgmestre de la Gombe à Kinshasa, de nous avoir confié ses impressions sur le Louvre-Lens et de nous avoir présenté les problématiques de sa ville et d'avoir un peu levé le voile sur le chantier de jumelage qui commence donc à se concrétiser avec la ville de Douvrin. Merci à Xavier Dectot pour son accueil au Louvre-Lens et merci également à l'Orchestre International du Vertex, formation belge, de nous avoir permis d'illustrer musicalement ce sujet avec son dernier titre, Kinshasa Master. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus.